je vais continuer à mes petits entretiens en espérant que cela vous apportera quelque chose. À moi aussi, en tout cas, ça m'apporte d'avoir la joie de travailler pour vous. Avant d'aborder l'histoire de l'Église, comme je l'ai promis, je voudrais quand même m'attarder à une autre affaire dont on nous parle et on nous surine sans arrêt, c'est l'affaire des valeurs. On entend souvent des hommes politiques ou autres dire « cela n'est pas conforme à nos valeurs, il faut défendre nos valeurs ». Alors, je vais essayer de voir un petit peu. Souvent, on parle des valeurs, dites des valeurs démocratiques ou républicaines, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ces valeurs sont-elles de vraies valeurs? On nous cesse de nous vanter donc les mérites d'une démocratie qui serait un remède à tous les maux, bien qu'elle reste assez mal définie. Toutefois, j'essaie d'en savoir davantage. Le professeur Xavier Martin vient d'éditer un livre qui doit recevoir le prix Renaissance, le titre du livre étant « La France au choc de sa révolution ». Ce livre qui, selon les comptes rendus, je n'ai pas lu le livre lui-même, mais j'ai lu les comptes rendus, met bien des choses au point sur ce sombre chapitre de notre histoire. Xavier Martin fait remarquer que la philosophie dite des Lumières, que l'on appellerait plus justement du brouillard, voire des ténèbres, a ramené l'âme de l'homme, disons l'esprit pour faire moderne, au niveau de ses sentiments, voire de ses pulsions. À les en croire, l'homme serait seulement un animal étrange qui mange quand il n'a pas faim, boit quand il n'a pas soif et fait l'amour en toute saison. Bref, un animal libéré, si on peut dire, de l'instinct naturel qui joue le rôle de frein et de régulateur chez toutes les autres espèces. Un animal dénaturé, en quelque sorte. Les 25 ans qui ont suivi la Révolution ont été une suite ininterrompue de massacres, de pillages, de guerres et de sacrilèges. Plusieurs conséquences dramatiques en subsistent toujours. Après cette Révolution, quels ont été les résultats de cette fameuse démocratie? C'est au nom de la démocratie que le régime du tsar a été renversé. Le résultat fut Lénine et Staline. Le roi d'Italie a dû céder sa place à Mussolini, Chiang Kai-shek à Mao Tse-tung. Plus près de nous, quel fut le résultat du renversement du Shah à Ahmadinejad et de celui de Saddam Hussein? On ne sait pas encore, mais il y eut des morts et les chrétiens fuient. La démocratie sera-t-elle inaugurée en Tunisie et en Égypte? On n'en sait trop rien. En tout cas, vers l'Afrique noire et l'Afghanistan, l'arrivée de cette démocratie se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliers de morts. C'est donc définitivement que l'on peut froncer, pardon, c'est donc légitimement que l'on peut froncer les sourcils devant les valeurs de ce qui ressemble plutôt à une utopie sanguinaire. Alors nous allons commencer par la liberté, un mot qui sonne clair et joyeux à toutes les oreilles. Qui ne souhaite de se sentir libre? Bien des définitions ont été proposées pour ce mot assez protéiforme, mises à toutes les sauces comme l'a fait remarquer Paul Valéry. Une définition particulièrement odieuse est que la liberté est l'expression de la volonté générale. Je l'ai entendu mise dans la bouche de Voltaire ou de Talleyrand, peu importe. Mais la volonté de qui? On répond d'une assemblée élue par le peuple. J'ai eu l'occasion de participer à des exercices dits de démocratie participative. On pourrait appeler ce genre de réunion le triomphe de l'incompétence. Moins les participants sont compétents, plus ils parlent fort et plus on les écoute. Si une telle assemblée, volonté générale, autorise le meurtre sera légal. On le sait très bien, depuis le célèbre pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on le voit de nos jours, où tandis que les règlements de toutes sortes pleuvent sur les braves gens, sur les automobilistes pour ne citer qu'eux, dont sort-on fumer dans un café sollicite un tollé, alors que l'avortement et l'euthanasie sont autorisés et même préconisés en cas de maladie incurable. Quant aux malfrats de toutes sortes, on les libère le plus tôt possible, ce qui leur permet de rapides récidives. La liberté d'expression, elle n'est que la liberté de calomnier, de mentir, de pousser à la haine, au besoin par de faux ménages et canulars, qui maintenant s'appellent hoax, mais qui fournillent. Et comme les journaux ne sont pas tenus de dire d'où ils sortent ce qu'ils ont le toupet d'appeler des informations, tous les excès sont permis. le résultat est proprement démoniaque, submergé d'informations dans lequel il est d'autant plus impossible de discerner le vrai du faux que les techniques actuelles permettent tous les trucages, parfois appelés manipulations, nous devenons incapables de distinguer le vrai du faux, de trouver des balises pour nous conduire conformément à nos aspirations. Alors, pour couper court à toute discussion, je propose une définition que personne, je pense, ne contestera. La liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Fort bien. Encore faut-il savoir ce que l'on veut. Les exemples fourmillent de braves gens déçus, désarçonnés, voire anéantis par la conséquence d'actes qu'ils ont pourtant voulu. « Je n'ai pas voulu cela », dit le petit enfant malade parce qu'il a mangé trop de chocolat, ou Daddy Napoléon en parcourant le champ de bataille d'Elo qui fut une horrible boucherie, ou bien le brave garçon qui a attrapé le sida ou la pauvre fille qui se retrouve enceinte. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut à long terme. Et une fois fixé le but à atteindre, il faut bien admettre que notre liberté a ses limites. Elle est d'abord conditionnée par notre nature. Nourriture, faut qu'on mange, faut qu'on boive, faut qu'on respire. C'est l'histoire qu'on racontait. Ni Dieu ni maître, dit l'orateur en descendant de la tribune sous un tonnerre d'applaudissements. Et il se précipita aux toilettes car il est en grand danger de faire pipi dans sa culotte. Il ne veut pas obéir à Dieu, mais il est bien obligé d'obéir à sa vessie. Et également, pour notre époque, notre culture, nous sommes conditionnés par tout cela. Je parle français, je ne parle pas chinois, et je puis vous dire que l'état d'esprit, du coup, en est légèrement changé. Ensuite, cette liberté demande l'aide de notre volonté, car il y a de la volonté à aimer. Apprendre une langue ou à jouer d'un instrument de musique ne se fait pas en une minute. Il faut de longtemps devant le clavier à faire des exercices, à s'entraîner à lire la musique ou bien à apprendre une langue. Saint Paul compare tout cela à l'entraînement d'un athlète. Il dit « Les athlètes, voyez, s'entraînent jour et nuit, donc vous devez vous aussi vous entraîner à agir selon votre liberté. » Et la liberté peut être interrompue. On cite l'exemple de Pascal qui, au moment de faire ses pensées, de rédiger ses pensées, a dit « Oh, je veux faire quelque chose de très bien, il me faudrait 4 ans de bonne santé. » Il n'a eu que 2 ans de maladie. Ce qu'il a écrit n'est quand même pas mal. Donc, il reste la liberté, demande une volonté, et ne saurait être mesurée à la satisfaction de l'instinct. Il reste à fixer l'objectif. Je me rappelle avoir invité un brave homme, professionnellement parlant. Il m'a dit « Vous n'êtes pas gêné pour les notes de frais, on ne vous dit rien. » J'ai dit « Non, bien sûr, c'était à quelqu'un d'important. » Il a donc choisi un très bon restaurant, j'ai invité à un bon déjeuner, il m'a dit « Voilà, j'ai réussi ma vie. Maintenant, on m'invite dans les meilleurs restaurants et je peux manger tout ce que je veux. » Diable, c'est vraiment tout cela ce qu'il souhaitait? Quelqu'un avait dit « Il y a plusieurs sortes d'aspirations. On peut espérer gagner de l'argent, être très riche. » Ben oui, mais on sera mis tout nu dans son cercueil et l'argent restera sur place. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un enterrement. D'autres disent « Je voudrais devenir quelque chose, directeur, président de ceci. » Ça ira un peu plus longtemps parce que s'il est directeur de quelque chose, on l'accompagnera à son enterrement. Puis ensuite, une fois refermée la tombe, ben ce sera fini. D'autres disent « On peut devenir quelqu'un. » Ah, alors je peux devenir quelqu'un, un grand savant. Alors là, après sa mort, on parlera encore de lui. C'est déjà un petit peu mieux. Mais si on va jusqu'au bout des choses, on s'apercevra que l'homme est vraiment fait pour l'amour, que l'homme était aspiré par l'au-delà. Les païens, les musulmans, les juifs, les protestants, les orthodoxes et les catholiques ont ceci de supérieur aux athées qu'ils savent qu'il y a en eux une dimension spirituelle qu'il ne faut pas négliger. Avec les musulmans, les juifs, les protestants et les orthodoxes, nous savons qu'il existe un Dieu créateur, tout-puissant, de qui nous dépendons. Avec les juifs, les protestants et les orthodoxes, nous savons que l'homme a péché, s'est fâché avec Dieu, mais que Dieu a promis un sauveur. Avec les protestants, les orthodoxes et les catholiques, nous savons que ce sauveur est venu, qui a été attaché à une croix et qui nous a par là même libéré du péché et permis de retrouver l'amour de Dieu. Avec les orthodoxes, nous savons qu'il nous a laissé des sacrements merveilleux, notamment le sacrement de la pénitence qui nous permet de retourner en grâce avec lui, et le sacrement de l'Eucharistie, une merveille sur laquelle nous ne réfléchirons jamais assez. Et par-dessus le marché, en tant que catholique, Nous savons que le Christ a donné ses clés à Saint-Pierre et que le pape est là pour nous montrer le vrai chemin à suivre. Nous sommes richissimes. Nous avons tout en main. Donc nous devons en rendre grâce et puis nous devons à tous nos contemporains, nous avons envers tous nos contemporains le devoir d'essayer de les élever là-dedans. La liberté, Dieu nous a donné une liberté énorme. Dieu nous aime et veut être aimé. Mais l'amour doit être libre. Autrement dit, c'est pour pouvoir l'aimer que Dieu nous a donné la liberté de pouvoir le rejeter. En disant, Dieu, tu pourras m'écraser, mais moi, tu n'auras jamais un mot d'amour de moi. C'est une folie. Mais en plus, après le Golgotha, après tout ce que Dieu a souffert pour nous ramener dans ses bras, c'est vraiment d'une ingratitude monumentale. C'est invraisemblable de penser qu'on puisse être là. Donc, il faut l'aimer vraiment, et notre liberté est de pouvoir accepter Dieu, de pouvoir l'aimer, et de ne jamais faire quelque chose qui a rien contre cet amour. Regardons deux cas. Il y a la méditation, il y a le petit Samuel. Parlez Seigneur, votre serviteur écoute. Il était prêt à recevoir. Et puis il y a l'histoire du fils prodigue. Il a demandé son bien, il est parti. Puis il s'est retrouvé affamé en train de garder les pourceaux. Il l'a voulu. Il a eu la liberté, il a pris la liberté de faire tout ce qu'il voulait avec ce qu'il avait. Il a vu où ça l'a entraîné. Alors, il est retourné chez son père, il a dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. » Et sa liberté, il l'a remise dans les bras de son père. Parler de la liberté de brûler des voitures, de casser des vitrines, de vomir des calomnies, ceux qui s'y adonnent devraient réfléchir sur le but, car ils retourneront dans poussière. Carmen n'était pas libre. Elle dépendait de ses instincts, elle dépendait de ses envies, de ce qu'elles ont de plus terre à terre, si je puis dire. La Sainte Vierge, elle, était libre. Elle a toujours choisi exactement ce qu'il fallait pour se réfugier dans l'amour de Dieu. Donc, la liberté démocratique, ça ne veut rien dire du tout. La seule liberté que nous devons prôner, c'est celle de la Sainte Vierge. La liberté d'agir ne vaut que dans la mesure où elle nous rapproche de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien, la prochaine fois, nous essaierons de continuer avec l'égalité, voir un peu ce qu'on peut en tirer.